Banco Pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h temps universel. Nous allons consacrer une grande partie de l'émission à la guerre entre Israël et l'Iran. Nouvelle nuit de frappes de part et d'autre. Les hostilités se poursuivent pour la quatrième journée consécutive. Israël, Iran, un nouveau front qui ne doit pas occulter la situation humanitaire à Gaza. À partir de 8h40 temps universel, nous répondrons à toutes vos questions sur le quotidien des Gazaouis et les réalités de cette crise qui dure maintenant depuis plus de 20 mois et qui a fait plus de 55 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, donc, vos questions sur l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Quatrième jour de guerre. Ce matin, l'Iran promet des frappes plus dévastatrices contre les cibles vitales d'Israël. De son côté, le ministre israélien de la Défense assure que les habitants de Téhéran paieront le prix des attaques contre Israël cette nuit sur Tel Aviv et la ville portuaire de Haïfa. Comment expliquer une telle escalade militaire? Était-elle prévisible? Quelles conséquences pour le Moyen-Orient? Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. Et vous publiez ces jours-ci aux éditions Taillandier « La décomposition du Moyen-Orient ». Adel Bakawan, cela fait des années que Benjamin Netanyahou projette de s'attaquer au programme nucléaire iranien. En tant qu'expert, en tant que spécialiste, avez-vous été surpris vendredi matin en vous réveillant d'apprendre ces frappes israéliennes sur l'Iran?
Non.
Non.
Non, 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 absolument pas, mais vous avez absolument raison. Depuis 40 ans, Israël, en tant qu'État, et pas seulement en tant que gouvernement, mais en tant qu'État, considère la République islamique d'Iran, non pas l'Iran, mais la République islamique, le régime, comme une menace existentielle. Et cette menace existentielle n'est pas une fiction, c'est une réalité, parce que l'ancien président de la République en Iran, Ahmadinejad, devant toutes les caméras du monde, a menacé de rayer Israël de la terre. Autrement dit, il y a des fondements objectifs et factuels qui font de l'Iran, de la République islamique d'Iran, une menace pour Israël.
C'est la première fois depuis 40 ans qu'Israël frappe un pays, un État en tant que tel et non une organisation comme le Hamas ou le Hezbollah. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit de Benjamin Netanyahou en ce moment?
C'est que pendant des années et des années, il y avait des guerres entre Israël et l'Iran sur d'autres fronts. À savoir, l'Iran avait parfaitement réussi à mettre en place des organisations miliciennes au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak et dans d'autres pays, et via le biais de ces organisations terroristes, menait sa guerre contre Israël. L'Iran a dépensé quand même des milliards et des milliards de dollars dans ces organisations-là. Alors la force d'Israël, c'est quoi? C'est qu'il a décapité l'ensemble de ces organisations pour pouvoir...
Mieux décapiter le régime iranien?
Écoutez, ce qui s'est passé au Liban avec le Hezbollah n'est pas rien. Et Israël a réussi à décapiter, avant de répondre à votre question, Hassan Nasrallah, le chef de Hezbollah, qui était considéré par les grands spécialistes de la sécurité comme le mieux protégé que Ayatollah Khamenei lui-même. Et quand même, Israël a réussi à le décapiter, n'est-ce pas? Et au moment où Israël a assassiné Hassan Nasrallah, l'ensemble, bien évidemment, de l'appareil de Hezbollah est totalement désorganisé. Alors donc là, Israël a parfaitement réussi à décapiter le chef des gardiens de la révolution, n'est-ce pas?
On va y revenir, évidemment, puisque plusieurs hauts responsables du régime iranien ont été la cible des frappes israéliennes ces trois derniers jours. On passe au standard. Adel Bakawan, on a reçu des dizaines et des dizaines de questions concernant cette guerre Israël-Iran. Bonjour Chibrel.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Vous bonjour êtes... à toutes les...
Allez-y, vous
bonjour
êtes à Brazzaville.
Bonjour à toute l'équipe d'appel sur l'actualité. Oui, Brazzaville.
On vous écoute.
Israël affirme que le programme nucléaire iranien a franchi un seuil critique. Quelles preuves concrètes Israël avance-t-il pour justifier ses frappes ?
Ah, bonne question, effectivement, Adel Bakawan. Israël justifie ses frappes en affirmant avoir des renseignements prouvant que l'Iran s'approcherait, je cite, du point de non-retour vers la bombe atomique.
L'Iran est surveillé de près par la communauté internationale. Il y a un système de surveillance permanent avec l'accord, bien évidemment, de l'Iran lui-même. Et donc, il y a eu des rapports très, très, très détaillés que l'Iran s'approchait d'une manière très rapide, très 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 rapide de seuil critiquable. Et donc ça, c'est une information bien évidemment tout à fait justifiée, ça ne vient pas uniquement d'Israël.
Mais excusez-moi Adel Bakawan, l'argument invoqué par Israël depuis vendredi n'a pas été confirmé par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Mais l'AIEA a déjà publié dès jeudi soir, n'est-ce pas, un rapport très 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 critique par
rapport
à l'Iran.
Disant que l'Iran violait ses obligations.
Voilà, donc ça allait dans le
sens...
Mais
ça ne signifie pas que l'Iran est à quelques semaines ou peut-être quelques mois de disposer de la bombe atomique.
Écoutez, pour moi... L'argument principal d'Israël n'est pas ça. C'est que Israël considère la République islamique d'Iran comme le premier responsable du 7 octobre. Avec ou sans bombe nucléaire, l'Iran est parfaitement capable d'attaquer Israël, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, l'Iran, ce n'est pas avec la bombe nucléaire que l'Iran attaque Israël. L'Iran détruit Israël. Et donc la menace existentielle iranienne est là. Mais par contre, vous avez absolument raison, pour le moment, il n'y a pas une institution internationale qui a confirmé cette information israélienne.
On repasse au standard. Bonjour Achille.
Oui, bonjour Juan.
En Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
Ok, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Bon, moi, je voudrais savoir pourquoi les États-Unis, la Russie, l'Inde, Pakistan et d'autres États détiennent des armes nucléaires. Et pourquoi on dénie ce droit d'en avoir à l'Iran ? Je veux savoir.
Oui, Adel Bakawan vous explique.
Écoutez, votre question est tout à fait légitime, mais en même temps complexe. Ces pays mentionnés ont eu accès à la bombe nucléaire dans des contextes très très particuliers. Aujourd'hui, l'Iran est dans un autre contexte, à savoir, tout d'abord, il faut comprendre que l'Iran est un État, c'est pas un jugement de valeur, ce que je dis, c'est pas une prise de position de ma part, c'est une donnée factuelle, il faut toujours le rappeler. Nous, en tant que chercheurs, on n'est pas là pour prendre position, mais expliquer ce qui se passe. À l'échelle internationale, l'Iran est considéré comme un pays maudit, un pays paria, un pays qui est considéré comme un danger pour le système international. Hier, vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères français a déclaré que l'Iran pourrait menacer Paris, même la France, les pays européens. Alors donc, et l'Iran, dans les années passées, s'est démontré comme une menace pour la sécurité de plusieurs pays à l'échelle.
Et vous l'avez rappelé à juste titre, Adel Bakawan, l'Iran n'a jamais caché son intention de rayer Israël de la carte.
Exactement. Et ça, en termes de respectabilité, de crédibilité, d'acceptabilité au sein de la communauté internationale, est tout à fait critiquable.
Tim est au standard. Bonjour, soyez le bienvenu.
Oui, merci beaucoup, Juan.
En République démocratique du Congo, quelles sont vos questions ?
Alors, la première, est-ce que l'élimination des deux plus hauts gradés du régime est un coup fatal pour l'Iran ?
Alors, les deux plus hauts gradés, j'imagine que vous faites référence notamment au chef d'état-major de l'armée et au chef des gardiens de la Révolution. C'est un coup dur, Adel Bakawan, pour
le régime. Un coup dur, mais pas fatal. un coup dur, mais pas fatal.
Ils ont d'ailleurs été très vite remplacés.
Rapidement remplacés. Le coup fatal pour moi, c'est Ali Khamenei. C'est le guide suprême de la révolution islamique. Au moment où Israël a assassiné Hassan Nasrallah, le chef de Hezbollah au Liban, il a totalement déstabilisé, il a mis à terre, il a désorganisé la totalité de Hezbollah. Et donc, oui, le coup fatal, ça sera le guide suprême et non pas les autres cadres dirigeants.
Avant d'arriver éventuellement à ce coup fatal à Delbakawane, en tout cas l'élimination du chef d'état-major de l'armée, du chef des gardiens de la Révolution, mais aussi du chef du renseignement des gardiens de la Révolution, on l'a appris hier, ça montre finalement qu'aucun dirigeant iranien
est à l'abri,
n'est en sécurité.
Exactement, et ça montre aussi que Israël a parfaitement réussi à entrer dans le territoire israélien.
Alors justement, Tim, il y a une question à vous poser justement sur le mode opératoire de l'armée israélienne depuis vendredi. Tim ?
Oui, comment l'armée israélienne a-t-il mené ses troupes avec précision ?
C'est une très bonne question là. Et Israël certes dispose des nouvelles technologies de précision très 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 avancées. Israël a accès à des armements très très avancés, mais surtout, tout ça c'est très important, et surtout Israël a une présence sur le territoire iranien. Alors par Mossad, bien évidemment,
le service de renseignement israélien.
Le service de renseignement extérieur israélien a une présence avec des informations et des accès très 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 précis. Il ne faut pas oublier qu'Israël, le Mossad a assassiné Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, à Téhéran, dans une résidence très 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 surveillée, protégé par la République islamique d'Iran.
Donc pour résumer, excusez-moi, je me mets à la place des auditeurs, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des hommes du Mossad, donc du service de renseignement extérieur israélien, qui sont, donc depuis quelques jours, voire peut-être même, qui sait, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur le territoire iranien pour mettre en place
les opérations déclenchées depuis vendredi.
Et
qui sont ces hommes ? C'est très important de connaître l'identité de ces hommes-là. Il ne faut jamais oublier qu'en Israël, nous avons une communauté persophone d'origine iranienne, mais juive, émigrés en Israël depuis toujours, hein, depuis 48 et ensuite depuis l'arrivée de la République islamique d'Iran en 79. Et cette communauté-là, très très importante, a des accès à beaucoup de ressources en Iran.
Est-ce qu'il y a des taupes au sein du régime
iranien
qui coopèrent, qui collaborent avec Israël ?
Ah oui, absolument. Ils ont pendu hier un agent, n'est-ce pas ? Un agent qui était très très bien infiltré. Oui, il y a des taupes un peu partout au sein du régime iranien.
On repasse au standard, il est 8h23 en temps universel. Vos questions sur la guerre Israël-Iran. Bonjour Fabrice.
Bonjour Juan et bonjour à Abdoulaye David Anjamena.
Bon, bah, s'il nous écoute, on le salue également. Nous vous écoutons avec notre invité Adel Bakawane.
Plusieurs sites nucléaires ont été touchés. Les dégâts sont-ils suffisamment graves pour affaiblir le programme nucléaire iranien ?
Alors, c'est une question qui est souvent revenue. Que sait-on des dégâts causés justement sur les centrales visées ?
Est-ce que le cœur du programme atomique iranien est touché ? Pour le moment, non. Non. Mais tout ce qui a été touché, ce sont des installations autour de ces sites nucléaires. Bien évidemment, le programme est endommagé. Le programme pourrait être ralenti plusieurs semaines, mais le programme n'est pas totalement empêché. Et il est peu probable qu'Israël, à lui seul, puisse détruire le programme nucléaire iranien.
Et un haut responsable a dit d'ailleurs dès vendredi, un haut responsable israélien, on ne pourra pas détruire le programme nucléaire iranien uniquement avec la force, uniquement avec les armes, mais le cœur du programme iranien, il n'est pas du tout en surface. Il est, si j'ai bien compris, et si j'écoute les experts depuis maintenant 3 jours, il est en profondeur. Il est à 800 mètres sous terre.
Voilà, il y a certains sites, c'est à 60 mètres sous-sol. Dans d'autres, on parle de 800 mètres. Hein. Donc, c'est, on va dire, entre 60 et 800 mètres. Cela complique énormément la tâche pour Israël. Le seul pays au monde qui dispose la bombe pour détruire ces sites nucléaires dans des profondeurs, ce sont les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas encore livré ces bombes à Israël.
Donc Israël aura besoin de l'assistance américaine pour détruire.
L'assistance directe et non pas indirecte.
Des fameuses bombes capables de détruire les installations nucléaires
c'est
en profondeur.
C'est que les Américains n'ont pas encore pris cette décision.
Ouais. Alseni, bonjour.
Bonjour, monsieur Wan. Bonjour à tous.
Nous vous écoutons. Allez-y, on tend l'oreille.
L'Iran riposte par des missiles balistiques qui touchent notamment Tel Aviv et Jérusalem. Mmh. Alors, monsieur Wan, pourquoi cette défaillance du système de défense israélien, pourtant censé être très sophistiqué?
Bon, Israël, on a toujours dit qu'il pouvait compter sur le dôme de fer pour intercepter les missiles venant de l'ennemi. On voit bien que le dôme fonctionne, Adel Bakawan, mais il est efficace, mais il n'est pas infaillible.
Et il n'est pas parfait, il n'y a aucun système parfait. Vous savez, il n'y a pas que dôme de fer, il y a au moins 4 systèmes de protection aérienne en Israël. Il y a 3 Israéliens et 1 Américain. Mais il y a aussi, le président de la République l'a dit clairement, que la France est engagée dans la protection aérienne d'Israël, n'est-ce pas? Il y a les Britanniques. Mais malgré tous ces systèmes-là, bien évidemment, comme on l'a dit, aucun système est parfait. À un moment donné, il y a des failles, il y a des trous par lesquels ces missiles peuvent passer. Il suffit d'envoyer des centaines de missiles en même temps
et ça, l'Iran
pour, saturer le
bien
système.
Sûr.
Et au moment où on sature le système, il y a quelques-uns qui tombent et il suffit de que quelques-uns tombent pour produire cette destruction qu'Israël n'a jamais vue dans sa vie.
Je me fais le porte-parole de Nankuman, qui nous écoute à Wuhan, c'est en Chine. Y a-t-il un risque d'élargissement du conflit à d'autres pays de la région?
Non. Moi, depuis plusieurs jours, on me pose cette question-là. Moi, le chercheur le plus pessimiste sur le Moyen-Orient, pour une fois, je suis relativement optimiste par rapport à l'embrasement régional. Mmh. Si l'embrasement régional signifie que d'autres pays s'en gèrent et entrent en guerre, la réponse est non. Aucun pays arabe, aucun pays musulman va défendre l'Iran.
Mais la réponse des pays arabes aux attaques israéliennes, elle est tout de même intéressante. Adel Bakawan, tenez-vous bien, et là je m'adresse aux auditeurs, l'Arabie Saoudite qui dès vendredi a réagi, condamne et qualifie l'Iran, la République islamique d'Iran, de pays frère.
Oui, absolument. Ça, c'est en termes d'affichage, en termes diplomatiques, ce sont des calculs politiques, mais au-delà du narratif, au-delà du discours, l'Arabie Saoudite ne prendra jamais acte pour entrer en guerre contre Israël du côté de l'Iran, ni le Pakistan, même si le ministre de la Défense pakistanaise a dit que nous allons soutenir l'Iran, mais ça, c'est de l'ordre narratif.
Il nous reste une petite minute 30 encore, le temps passe très très vite. Fofana a une question à vous poser. Soyez le bienvenu, Fofana.
Oui, bonjour Monsieur Rouen et bonjour à vos nombreux auditeurs.
Nous vous écoutons.
Poutine s'est proposé de jouer le médiateur entre Israël et l'Iran. Ce scénario est-il envisageable?
Alors, Poutine, se propose de jouer les médiateurs.
Oui, tout à fait. Poutine, le président russe, est parmi les rares acteurs au monde qui dispose à la fois de bonnes relations avec Israël, mais aussi avec la République islamique d'Iran. Donc, si jamais la communauté internationale souhaite qu'un acteur crédible s'engage, ce acteur ne peut être que Poutine.
Que Poutine. Oui. Donald Trump s'est dit ouvert à ce que Poutine joue ce rôle de médiateur. En revanche, on a pu entendre hier Emmanuel Macron exprimer son désaccord.
Disant
« La Russie, ça fait en gros des années qu'elle ne respecte pas la charte des Nations Unies. Donc, au nom de quoi Vladimir Poutine pourrait jouer le rôle de médiateur dans une crise internationale comme celle-ci ? »
Mais je comprends parfaitement le président de la République qui part d'un principe éthique. Mais pour régler une conflictualité aussi grave, il faut à un moment donné passer au pragmatisme et mettre l'éthique entre parenthèses.
Merci Adel Bakawan. Vous restez avec nous. On vous retrouve évidemment dans la deuxième partie d'émission Israël-Iran. front, on en a parlé durant 20 minutes, mais ce nouveau front ne doit pas nous faire oublier la situation humanitaire à Gaza. Ce sera le sujet, la thématique de notre deuxième partie. À tout de suite.